Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile. Au sommaire, une erreur de l'armée au Nigeria, elle croyait bombarder les terroristes de Boko Haram. Elle a touché un camp de civils, au moins 50 personnes ont été tuées. L'électricité revient à Gaza, le Qatar et la Turquie qui soutiennent le Hamas apportent leur aide pour en finir avec les coupures de courant et la colère des habitants. Gros plan aussi dans ce journal sur les ennuis du géant de l'électronique Samsung en Corée du Sud, accusé de corruption. Et puis nous retrouverons notre envoyé spécial Christophe Diremzian au Mondial de handball pour la rencontre France-Russie.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
On appelle ça une bavure. Quand par exemple des militaires se trompent de cible et tirent sur des civils alors qu'ils visaient des terroristes. C'est ce qui s'est passé au Nigeria, dans le nord-est du pays, où sévit l'ex-groupe Boko Haram, qui s'appelle désormais l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'aviation militaire nigériane croyait bombarder des djihadistes. Elle a en fait touché un camp de déplacés, des civils qui fuient précisément les violences terroristes. Le bilan est très lourd, au moins 50 morts et 120 blessés. La Croix-Rouge internationale déplore pour sa part la mort de 6 de ses membres. 13 autres employés de la Croix-Rouge ont aussi été blessés. Sébastien Nemeth a joint le porte-parole du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, Jason Strazuzo.
C'est avec une grande tristesse que j'annonce cette nouvelle. Les victimes étaient soit des employés de la Croix-Rouge nigériane, soit des bénévoles de l'organisation. Ils faisaient partie d'une équipe déployée à Ran pour apporter de la nourriture à plus de 25 000 personnes déplacées qui en avaient un besoin vital. Je travaille avec le CICR depuis 2 ans et c'est la première fois que je vois autant de gens mourir d'un seul coup au sein de la famille Croix-Rouge. Notre organisation travaille dans des régions en guerre, au Nigeria, en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Nos équipes sont exposées tous les jours à ce genre de risque. Bien sûr, on essaie de le minimiser au maximum. Mais dans ce genre de région, ce type de catastrophe arrive malheureusement.
Jason Strazuzo, le porte-parole de la Croix-Rouge internationale. Dans l'actualité africaine encore, une nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire. Une mutinerie, c'est quand des militaires se révoltent, sortent de leurs casernes et n'obéissent plus à leur chef. Il y a une dizaine de jours, le gouvernement avait obtenu le calme en donnant des augmentations de salaire à tout un groupe de soldats mutins. Seulement voilà, ceux qui ne sont pas concernés par ces augmentations de salaire ne sont pas contents. Ils l'ont fait savoir en tirant en l'air dans plusieurs villes du pays, dans 6 villes précisément. Et à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, 2 soldats ont été tués. En Gambie, le président sortant Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence à 2 jours de l'entrée en fonction du président élu Adama Barrow. Yahya Jammeh a perdu la présidentielle du 1er décembre dernier, mais il refuse de quitter le pouvoir. Il dénonce une ingérence étrangère dans le processus électoral. Il accuse des pays étrangers de se mêler des affaires gambiennes. Et de fait, les pays d'Afrique de l'Ouest menacent d'une intervention militaire pour faire revenir la démocratie en Gambie.
Le journal en français facile.
Direction à présent la bande de Gaza qui fait face à une pénurie d'électricité. Ces 2 dernières semaines, les Gazaouis, les habitants de Gaza, n'avaient de l'électricité que 4 heures par jour, ce qui a provoqué des manifestations de mécontentement. Mais ça va s'arranger. Le Qatar et la Turquie, les 2 principaux soutiens du Hamas au pouvoir à Gaza, ont apporté une aide bienvenue. RFI Jérusalem, Guilhem Delteil.
Les uns apportent de l'argent, plus de 11 millions d'euros de la part du gouvernement qatarien pour financer l'achat de fuel servant à faire fonctionner l'unique centrale électrique de la bande de Gaza. Les autres se sont engagés à livrer directement ce fuel, 20 000 tonnes qui doivent arriver en provenance de Turquie. Une aide qui devrait permettre auprès de 2 millions d'habitants de cette enclave sous blocus de bénéficier de 7 à 8 heures d'électricité par jour, un retour à la normale à Gaza. L'objectif est aussi d'éteindre la grogne sociale qui a émergé ces derniers jours. Plusieurs manifestations de mécontentement ont eu lieu. Une contestation assez inédite depuis la prise de pouvoir du Hamas dans ce territoire palestinien il y a 10 ans. Le mouvement islamiste cherche à éviter l'embrasement. Plusieurs manifestants ont été arrêtés en fin de semaine dernière. Le Hamas s'est depuis engagé à les libérer. Le parti s'est donc retourné vers ses principaux alliés sur la scène internationale, mais même ses ennemis redoutent une contestation de plus en plus forte. Israéliens et Égyptiens craignent de voir des groupes salafistes prendre plus d'importance dans ce territoire palestinien. Guilhem Neltaï, Jérusalem, RFI.
RFI, il est 21h06 à Paris. Des difficultés pour Samsung, le constructeur d'appareils électroniques sud-coréen. Vous avez sans doute entendu parler des problèmes que rencontre l'un de ses téléphones portables, le Galaxy Note 7 et ses batteries qui explosent. Eh bien, Samsung est aussi concerné par l'énorme scandale de corruption qui touche la présidente de la Corée du Sud. Les explications de Clémence Denavy.
Quand Samsung flanche, ce n'est pas bon pour l'économie sud-coréenne. Samsung, c'est le plus important des chaebol, ces conglomérats industriels et familiaux, artisans de la reconstruction de la Corée après la guerre. L'empire Samsung pèse à lui seul 20% du produit intérieur brut du pays. Lee Jae-yong est le fils héritier de cet empire et officiellement l'actuel vice-président de Samsung Electronics, le joyau familial. La justice le soupçonne d'avoir sciemment corrompu des proches de la présidente pour obtenir des arbitrages cléments en faveur de Samsung dans des dossiers légaux et délicats pour l'entreprise. L'ensemble des pots de vin versés se montrait à 34 millions d'euros. Cette mise en cause intervient dans la foulée d'un autre déboire sérieux, le rappel massif des téléphones Galaxy Note 7 après que certains appareils ont pris feu. Le rapport expliquant l'origine de ces explosions doit être publié dans une semaine. De sources proches du dossier, la batterie serait bien en cause. Cet épisode avait en tout cas entamé la crédibilité du géant, y compris sur les marchés, dans un contexte de concurrence exacerbée.
À Davos, en Suisse, au Forum économique mondial, le président de la Chine a été la vedette de la première journée. D'abord, c'est la première fois qu'un président chinois se rend dans ce temple sacré du capitalisme mondial. Ensuite, son discours a beaucoup plu, puisque Xi Jinping a fait la promotion du libre-échange et du commerce mondial. Le Parlement européen a un nouveau président, l'Italien Antonio Tajani. Il est membre de la droite européenne. Une page sportive dans ce journal en français facile. D'abord du football avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon. Cet après-midi, dans le groupe D, le Ghana a battu l'Ouganda 1-0. Et en ce moment, l'Égypte affronte le Mali. Il y a 0 partout. Après le football, le handball, c'est le mondial, la Coupe du Monde, organisée en France. Les Français tenants du titre jouent en ce moment face à la Russie. Christophe Diremzian, vous suivez ce match pour nous. Avantage aux Français pour l'instant.
Absolument. 3 buts d'avance en faveur de l'équipe de France ici dans le hall XXL de Nantes, alors qu'il reste à jouer précisément 8 minutes et 20 secondes dans cette première période. 11-8 pour des tricolores qui maîtrisent pour l'instant bien leur sujet grâce à une très très bonne défense face à des Russes qui réduisent à l'instant la marque pour revenir à 11-9. Un but signé Danil Chichkarev. Les Russes qui n'ont plus fait grand chose d'un important au niveau international depuis maintenant plus de 13 ans et qui compte sur ce mondial 2017 en France pour tenter de revenir au plus haut niveau international. Ils ont les armes, ils ont les moyens, les Russes, d'inquiéter les Français. C'est ce qu'ils font depuis le début de cette partie, même si pour l'instant l'expérience plus grande et surtout la maîtrise des Français leur permet pour l'instant de tenir un avantage de plus 3, toujours 12 à 9. On rappelle que les Français sont qualifiés officiellement depuis hier soir, que les Russes sont également qualifiés. La Norvège et le Brésil complètent le tableau de ces huitièmes de finale. Le Japon et la Pologne sont, elles, d'ores et déjà éliminées. L'objectif, vous l'avez dit, c'est de terminer premier du groupe afin d'obtenir un adversaire plus simple lors des huitièmes de finale. Pour l'instant, avantage aux Français 12 à 9.
Merci Christophe Diremzian. Beaucoup d'ambiance. C'est la fin de ce journal en français facile.